Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. C'est un immense plaisir de retrouver, comme chaque samedi, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreau. Bonjour à vous quatre.
Bonjour Pierre.
Qui veut la peau de l'Europe? Depuis plusieurs semaines, des migrants d'Afghanistan, d'Irak ou de Syrie se pressent à la frontière polono-biélorusse. Avec à la manœuvre, Alexandre Loukachenko, furieux des sanctions prises par l'Europe depuis sa réélection contestée il y a un an. La Turquie, de son côté, tirerait les ficelles dans l'ombre. Et Vladimir Poutine d'endosser, une fois n'est pas coutume, le costume de pacificateur. L'invasion de migrants, la nouvelle arme des ennemis de l'Europe, nous en parlons dans un instant. Emmanuel Macron, candidat ou chef de l'État? C'est le dressing permanent. À chaque prise de parole, il change de costume, une allocution aux airs de bilan quinquennal et deux jours plus tard, revoilà le Macron solennel du 11 novembre. D'ailleurs, d'où est venue cette petite larme? Émotion, rhume, les rumeurs vont bon train. Alors Macron s'en va en campagne ou pas? Nos grandes voix nous donneront leur avis. Et puis les LR ont ouvert le bal lundi pour leur premier débat télévisé. Un débat aux allures d'une discussion de salon sur fond de pacte de non-agression. Mais le candidat qui se détache n'est peut-être pas celui qu'on croit, comme lors d'une certaine primaire de 2016. Nos grandes voix ont enquêté. Vous avez le programme, c'est parti. Une nuit de plus dans le froid pour les 2 à 4 000 migrants venus d'Afghanistan, d'Irak ou de Syrie entassés à la frontière polono-biélorusse. Une nuit de plus dans le froid face aux barbelés, face à l'incertitude et face à 15 000 policiers et soldats du GROM, le groupe de réaction opérationnelle et de manœuvre polonais qui eux aussi au passage restent dans le froid comme des piquets en armes. Des populations prises au piège par le président biélorusse, ça s'est établi. Alexandre Loukachenko qui a fait venir des vols de Beyrouth, d'Istanbul, direction Minsk. Et de là, eh bien, ces familles ont été expulsées vers la frontière occidentale, frontière de la Pologne, mais aussi frontière de l'Union européenne. Que fait l'Europe? Elle négocie au niveau diplomatique, nous dit-on. Que fait la Biélorussie? Elle menace de couper le gaz si l'Europe renonce pas à de nouvelles sanctions. Que fait la Pologne? Elle maintient ses forces à la frontière pour maintenir tant bien que mal la frontière imperméable. Et que fait la France? Eh bien, par l'intermédiaire de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, il faut maintenant maintenir la fermeté. Ça n'empêche pas de critiquer à demi-mot Varsovie pour ne pas avoir accepté l'aide de Frontex. La question maintenant, les grandes voix, puisque les spéculations vont bon train, c'est qui est derrière tout cela, Gérard Carreau?
Derrière tout cela, il y a d'abord, évidemment, celui qui est l'immédiat provocateur, c'est-à-dire le chef d'État, si j'ose dire.
Loukachenko,
comme vient de me le souffler Catherine Ney,
au cas où vous l'auriez oublié.
Qui ne connaît que lui. Bon. Alors, évidemment, c'est lui qui est.
Bonjour les rumeurs.
C'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui qui est à la manœuvre, puisque c'est lui qui pousse, effectivement, ces migrants, etc. Bon, je ne refais pas. Tout le monde a vu les images.
Je vous ai fait le film.
Le film, vous l'avez fait. Mais ce qui me surprend un peu, en regardant parfois la presse, en écoutant les journaux, les télés, c'est qu'il n'y ait pas une unanimité, un consensus pour soutenir la Pologne. Parce que la Pologne,
étrange.
C'est un État souverain. Hein, c'est un État souverain, membre de l'Union européenne. Il est menacé, tout le monde le voit, c'est pas la peine de... Hein, on le voit tout de suite. Il est menacé. On lui permet de se défendre ou pas? Est-ce qu'un État en Europe aujourd'hui a le droit d'avoir la maîtrise de sa frontière? Moi, évidemment, je réponds oui, bien sûr. Alors on va me dire oui, mais les migrants, les pauvres migrants, etc. Bon, ça c'est évidemment le chantage des Biélorusses, si vous voulez, d'avoir des populations de pauvres gens apeurés, mais ce n'est pas une raison suffisante pour dire, bah, puisqu'il suffit d'envoyer des hordes de pauvres gens pour qu'on ouvre les frontières, à tout va, comme on l'avait fait d'ailleurs il y a quelques années, face aux Madame Merkel. Bon. Donc je vous dis clairement, la Pologne d'abord a été souvent un ami de la France. Je n'oublie jamais, moi, que c'est une Polonaise, la comtesse Walewska, qui a soutenu Napoléon jusqu'au dernier jour. C'est la seule qui lui a rendu visite quand il était seul. Et toutes les autres femmes de sa vie l'avaient abandonné. Bon, donc
pour cette raison, il faut soutenir la Pologne.
C'est une anecdote. Non, mais c'est au nom de l'amitié.
Non.
Au nom de l'amitié,
non, mais c'est vrai.
Au nom de l'amitié franco-polonaise. N'oubliez jamais qu'en 1940, nous étions l'allié de la Pologne. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce qu'on a été envahi. Mais en tout cas, il faut soutenir la Pologne. Et la Pologne a raison dans cette histoire. Le reste, c'est de l'humanitaire. Les associations s'en chargeront d'une manière ou d'une autre. Mais la politique exige que l'on soutienne la Pologne.
Non,
Charles Villeneuve.
Mais j'ajouterai pas à l'évocation historique de Gérard que les soldats de la grande armée de Napoléon ont été souvent des Polonais, les meilleurs officiers, comme le maréchal Poniatowski, etc. etc. Bon. Mais cette épreuve de force, car c'est une épreuve de force, met en jeu en réalité la capacité de l'Union européenne à se doter de frontières sûres et respectées. C'est ça le véritable enjeu. Et donc, la technique utilisée par Loukachenko est en réalité une technique qui a été mise au point par le président turc Erdogan, qui déjà en 2015 avait ouvert le robinet des migrants pour menacer l'Europe d'un certain nombre de mesures de rétorsion, en quelque sorte. C'est imaginé comme ça. Ce qu'il y a d'incroyable, si vous voulez, dans cette affaire, qui met en jeu justement la frontière polonaise, c'est que jamais un pays, donc un État, comme la Biélorussie, n'avait organisé une arrivée aussi massive, coordonnée de manière militaire, puisqu'ils vont chercher des Afghans et des Irakiens et aussi des Syriens dans les aéroports de Damas et de Beyrouth. Jamais.
Principalement.
Comment ?
Principalement dans ces deux aéroports.
Oui, c'est il y a trois compagnies aériennes, d'ailleurs, dont une compagnie aérienne locale, mais aussi
belge,
qui participent à ces transports aériens. Et ce bras de fer qui est organisé de manière quasi-militaire peut, si vous voulez, dériver vers un affrontement militaire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tous les ministres de la Défense, à partir de lundi soir à Bruxelles, vont se réunir pour étudier justement cette dérive possible.
Catherine.
Oui, à qui on a affaire, Loukachenko ? C'est un voyou, c'est un autocrate, qui tient son pays depuis plus de 30 ans, qui a été réélu, en fait, il a volé son élection par la triche. Il y a eu des manifestations énormes des Biélorusses qui en ont ras-le-bol de cet homme, et donc il s'est imposé, et donc il fait n'importe quoi, et là, l'Europe a mis des sanctions contre lui. Pourquoi ? Parce qu'il a détourné un avion privé qui allait de Grèce à Vilnius, en Lituanie, pour arrêter, en fait, un journaliste qui était un opposant. Donc, il se permet de faire des choses pareilles. Donc, les sanctions ont été que ses proches et lui-même sont interdits de séjour, n'ont plus de visa pour venir en Europe. Bon, et donc, ça ne lui plaît pas. Donc, lui, il a réagi, et comment ? Quand on est un voyou, où est le point faible de l'Europe ? C'est l'immigration. Donc, il a fait venir, non pas des gens qui étaient partis d'eux-mêmes, il leur a offert un avion pour leur dire « Arbeit, on va vous donner du travail, on va vous déporter, en fait, pour vous donner une vie meilleure. » Et en fait, il les met dans une forêt. D'ailleurs, depuis le temps que des avions partent, ils doivent être même plus de 4000 à Minsk. Il y en a peut-être encore à Minsk et ailleurs, des gens qui arrivent. Bon.
C'est une situation qui dure au moins depuis l'été.
Depuis l'été. Mmh. Donc, ces gens, pour voir l'hiver qui arrive, pour dire aux Européens, mais comment l'humanitaire, il faut aller secourir ces gens. Et c'est vrai que c'est horrible. Mmh. Et plus on verra des images, plus ce sera difficile. Et n'oubliez pas que Madame Merkel a déclenché l'ouverture des frontières après l'image du petit garçon mort, le petit Elan.
Mais parce qu'elle avait besoin aussi.
Elle en avait besoin, mais il n'empêche, voyez. Oui. Et aujourd'hui,
c'est un prétexte.
Tout à fait.
Et le risque, c'est aujourd'hui, alors il y a une leçon, quel est le pays qui va céder pour dire, eh bien, on ne peut pas, voilà, les humanitaires. Or moi, je crois que si l'Europe existe, elle doit au contraire aider la Pologne à renforcer ses barrières, ce que ne veut pas d'ailleurs la présidence de la Commission, faire un mur. Il n'est pas question, et c'est celui qui a amené ces migrants, de les renvoyer d'où ils viennent.
Oui, mais justement, simplement parce qu'il a bien repéré, et il n'est pas le seul, le suzerain de toute la région, c'est-à-dire le président russe Poutine aussi, ont tous bien repéré que le talon d'Achille de l'Europe, c'était l'absence de politique migratoire.
Voilà. Non, et de toute façon, c'est vrai que la frontière polonaise, c'est la frontière européenne.
Voilà.
Donc, c'est pas seulement les Polonais qui doivent se défendre, c'est nous aussi, parce que c'est ils veulent pas rester en Pologne.
Hein.
Ils veulent aller en Allemagne et peut-être en France. Donc, on est tenu, de toute façon, qu'on le veuille ou non, par une décision. Il faut absolument garantir ces frontières-là, parce que sinon, la politique est foutue. Les valeurs européennes, ça ne consiste pas non plus à laisser mourir des gens dans un coin. par conséquent, il faudra à un moment donné qu'une action humanitaire puisse s'engager.
Un corridor.
Pour que, avant, un corridor, pour qu'après, en effet, on puisse les renvoyer chez eux.
Oui, mais Michel, sans. Pourquoi, enfin, pourquoi la Pologne
si vous avez,
demande...
Non, mais s'il y a 100 personnes qui meurent, pardon, s'il y a 100 personnes qui meurent, quoi qu'on fasse, les valeurs européennes
oui,
seront
d'accord.
touchées.
Mais c'est ça que je
disais. Ben oui, mais tu dis d'accord,
est-ce que je
c'est
peux
pas
dire
rien.
Un mot
juste
c'est
après,
pas
après
rien.
La pause,
après
mon cher
la pause.
Oui. Puisque voici la pause et on revient dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on parle de ce nœud, puisque s'il y a pas, il y a évidemment d'autres mots qui sont plus difficiles à prononcer, mais c'est une situation qui ressemble à un nœud à la frontière entre la Pologne, un piège effectivement entre la Pologne et la Biélorussie. Pour compléter ce que vous disiez, Catherine Ney, tout à l'heure sur effectivement cette situation qui dure depuis l'été, hier sur BFM, l'ambassadeur de Pologne en France a rappelé que depuis le 1er août, la Pologne avait fait face à 10 000 tentative de franchissement illégal de la frontière. Gérard Carrérou, vous voulez répondre
à
Michel Cotta.
Oui, parce que bien évidemment, le piège, c'est la sensiblerie de l'opinion publique, l'humanitarisme. Alors, il y a du vrai humanitarisme, mais il y a aussi les apitoiements professionnels d'un certain nombre d'associations, etc. Les Polonais ont tellement bien compris les réactions qu'ils se sont dit, dans cette affaire, on va d'abord compter sur nous-mêmes. Ils comptent sur leur armée, ils ont déployé 12 ou 14 000 militaires, ils ont déployé des infrastructures, on en parlait pendant la pause, des infrastructures polonaises de secours, éventuellement Croix-Rouge et assimilées, de manière à justement, ce qu'on ne puisse pas dire, ils laissent mourir sur le terrain des pauvres gens, mais ils ne se tournent pas, et on peut se demander pourquoi ne se tournent-ils pas vers cette Europe dont je disais tout à l'heure qu'elle devrait soutenir. Parce qu'ils ont peur que l'Europe, dans un soutien, les noie sous Frontex.
Et Frontex est installé à Varsovie.
Frontex,
et ils ne veulent surtout pas que...
Ils ne veulent pas Frontex parce que dans les bagages immédiats de Frontex, il y a tous les humanitaires, les centaines, des milliers d'humanitaires qui n'attendent que ça pour dire... Je finis ma phrase et je te laisse la parole avec plaisir. Oui. Mais que ces gens, effectivement, vont dire « Alors, maintenant qu'ils sont entrés, qu'ils ont un pied, il faut les accueillir. Ouvrez les portes. » Et c'est pour ça que les Polonais, parce qu'ils savent qu'on leur fait des procès, par ailleurs, on peut en reparler dans d'autres moments, mais c'est pour cette raison qu'ils veulent faire seuls pour l'instant et qu'ils ne demandent pas, vous avez remarqué, qu'ils ne demandent pas l'aide. Et d'ailleurs,
on leur reproche. Oui, Clément Beaune, hier, à demi-mot sur Europe 1,
je pose la question que malheureusement on doit poser. On est d'accord, il faut défendre, et il faut essayer de défendre les frontières de la Pologne. On est d'accord, les gens qui arrivent sont des musulmans. Les musulmans, c'est pas comme ça,
Afghans,
ça tombe pas du ciel.
Afghans, Irakiens,
donc c'est très
Syriens.
Embêtant, y compris pour l'Europe. On est d'accord. Moyennant quoi ? Un, tu les laisses crever ? Dis-moi,
Je viens de te répondre, puisque les Polonais eux-mêmes ont prévenu cet argument en ayant des moyens de secours.
Voilà, alors s'il y a des moyens de
polonais,
secours...
pour éviter que viennent les internationaux et les professionnels, effectivement,
d'accord,
de
mais
l'humanisme.
Enfin, à la question, tu les laisses crever, tu ne me réponds pas.
Du gentil humanisme
je note que tu me
non,
réponds
il
pas.
Vous répond que la Pologne a mis en place la Croix-Rouge, des infirmiers.
Et on leur donne des vivres et du...
Oui, voilà. Et les habitants c'est pour se mobilisent. Marion Gauthier, notre reporter qui est sur place à la frontière, a fait un excellent reportage en montrant que les habitants se mobilisaient pour donner des vivres.
Je suis entièrement d'accord, mais ça ne résout pas le problème.
Je sais que ça ne résout pas le problème.
Ça ne résout pas le problème. Et le problème, c'est ça, le piège. Sinon, on ne parlera pas de ça.
Dans le piège.
Oui,
Charles.
Alors, moi, je
c'est
trouve
aussi
que,
une façon de tomber dans le piège.
Compte tenu de tout ce qui vient d'échanger, avec des arguments qui sont tout à fait recevables, mais qui posent une question dans cette épreuve de force, on le sait, c'est que l'Union européenne devrait elle aussi tirer une leçon de cet état de crise, notamment la diplomatie française. Est-ce que ce régime de sanctions permanentes déversées par l'Union européenne, sur la Russie notamment, interlocuteur incontournable, mais si peu fréquenté par l'Europe occidentale et notamment Paris depuis au moins 2 ans, n'est pas en train de se retourner contre l'Union européenne qui se retrouve dans une série d'impasses, parce que chaque fois qu'on prend des actions, en réalité, on crée une impasse. Et rien, il y a un exemple, c'est que rien n'a été résolu, ni en Crimée, ni au Donbass, encore moins en Biélorussie. Et d'ailleurs, notre politique extérieure de production, notamment agricole en paie les conséquences très lourdes. Bon.
Et vous avez remarqué que Vladimir Poutine a mis des troupes autour de l'Ukraine pas plus tard qu'hier. Hein. Oui. Et que du coup, la Pologne la France a réagi en disant qu'il fallait les retirer.
Mais la Russie couvre, je vais dans ton sens, la Russie, on dit un peu sommairement, on dit, au fond, tout ça, derrière tout ça, il y a Poutine. Mais ce n'est pas exactement ça. Derrière tout ça, Poutine, effectivement, tu as utilisé le mot suzerain, qui est le mot juste. Le suzerain de la région, c'est Poutine. Mmh. Mais le Poutine, il a décidé de laisser faire. Il couvre,
c'est exactement
comme on dit,
ça.
Je couvre.
Il n'est pas la baguette.
Il n'est pas l'instigateur.
Je ne crois pas.
Et pourquoi couvre-t-il ? Il couvre parce qu'effectivement, depuis 10 ans, la politique européenne, la politique française, n'oublions pas celle de Hollande jusqu'à Macron, et la politique européenne fait de l'anti. De l'anti-russisme.
Eh bien, puisque vous parlez de Vladimir Poutine, à l'instant, puisqu'il a accordé une interview à la chaîne Vesti, voilà ce que dit Vladimir Poutine. Je veux que tout le monde le sache, nous n'avons rien à voir là-dedans.
Oui.
Si quelqu'un est le médiateur, ce sera peut-être lui.
Mais ce sera certainement lui.
D'ailleurs, Madame Merkel lui a téléphoné deux fois.
Donc,
et ils ont dû se parler en russe. Parce qu'elle parle très bien
très
le
russe. Bien,
donc, moi, je pense qu'elle a compris que le nœud gordien, c'est quand même Poutine et que c'est lui qui peut trancher l'affaire,
Il faut prendre exemple sur l'affaire de 2008 avec la Géorgie. Qu'a fait Nicolas Sarkozy ? Il a pris son avion, il est allé voir Poutine. Et c'est comme ça que s'est résolu le problème de la Géorgie.
Enfin, c'est-à-dire qu'au lieu d'investir complètement la Géorgie et de l'occuper, ils l'ont occupé à 20%. Et ils sont toujours occupés à 20% en Géorgie, les Russes.
Mais enfin, ça s'appelle une négociation.
Ça s'appelle une négociation. Eh bien, là, aujourd'hui aussi, il faut une négociation. Et moi, je pense que Poutine, il a qu'un rêve, c'est annexer la Biélorussie. Donc, pour l'instant, il ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas annexer la Biélorussie comme on le fait avec la Crimée.
On va mais c'est quand même son.
Voilà. Oui, parce que ce type est un fou, mais il s'en sert.
Mais il s'en méfie, mais quand
Loubachenko dit on va couper le gaz, lui, il dit il n'en est pas question, et sûrement pas. Mais je pense qu'en étant le médiateur, il veut obtenir de l'Europe qu'elle cesse ces sanctions.
Sa politique de sanctions depuis 10 ans.
Voilà. C'est ça.
Et ces sanctions qui ont démontré leur inanité depuis 10 ans.
Voilà.
Parce que depuis 10 ans, on poursuit à travers, il y avait l'affaire de la guerre de Syrie, la Syrie, etc. Oui. On fait une politique anti-russe qui n'est pas dans l'esprit du gaullisme, qui n'a pas été dans l'esprit de le gaullisme et de la suite. On peut dire qu'il y a toujours eu une forme de coopération avec la Russie, même à l'époque de l'Union soviétique, mais ensuite avec la Russie. Mais depuis 10 ans, nos présidents sont arc-boutés sur un atlantisme pro-américain et ils dénoncent à chaque fois.
Mais la solution est quand même de ramener ces gens auxquels on a fait croire des choses qui n'existent pas, de les ramener chez eux. Alors l'ONU devrait, je ne sais pas, Clément Beaune disait que l'ONU pourrait peut-être essayer d'organiser, je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire ou j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est ça qu'il faut négocier aussi avec Poutine, c'est de ramener ces gens chez eux.
Une nouvelle pause et on revient avec les grandes voix, on parlera d'Emmanuel Macron, à tout de suite.